Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, je vous en reparle plus tard. Le 9 juin 1944, Adolf Hitler prend une décision qui pourrait changer le cours de la guerre, envoyer ses chars écraser le débarquement en Normandie ou les garder ailleurs. Il hésite et finalement il choisit de ne pas intervenir parce qu'un éleveur de poules en Angleterre lui a menti. Salut, je m'appelle Fabien Olicard et vous regardez ma série All Thread sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le 9 juin 1944, il y a 3 jours, la plus grande armada de l'histoire de l'humanité a débarqué sur les plages de Normandie. Et en ce moment même, Adolf Hitler est en train de prendre l'une des décisions les plus importantes de la guerre. Plusieurs divisions de ses Panzer, ses gros chars d'assaut, sont en route vers la Normandie pour écraser les alliés sur les plages. Si ces blindés arrivent à temps, le débarquement va échouer. La guerre change de cours et potentiellement nous ne vivons pas dans le même monde aujourd'hui. Mais Hitler reçoit un message, un télégramme de son meilleur espion en Angleterre, son agent le plus fiable, celui qui dirige un réseau de 27 espions infiltrés dans tout le Royaume-Uni. Et cet agent lui dit « La Normandie, c'est un piège, c'est un leurre, la vraie invasion va frapper au Pas-de-Calais. Ne bougez surtout pas les troupes. » Donc Hitler est convaincu. Il ordonne aux Panzer de faire demi-tour, les blindés retournent dans le Pas-de-Calais, ils y resteront des semaines à attendre une invasion qui ne viendra jamais. Cette décision va reposer sur un seul homme. Un homme que personne ne connaît et qui techniquement n'existe pas. L'espion préféré d'Hitler n'est pas un espion nazi, c'est un agent double britannique. Les 27 espions de son réseau n'existent pas, l'armée d'1 million d'hommes qui est censée attaquer le Pas-de-Calais n'existe pas non plus évidemment, et l'homme derrière tout ça, celui qui vient littéralement de sauver le débarquement, c'est un ancien éleveur de poules espagnol. Il n'a aucune formation militaire, il opère depuis une petite maison de banlieue dans le nord de Londres, et il s'appelle Juan Pujol Garcia. Pour la vidéo, je prononcerai à la française Juan Pujol Garcia, un petit mix des deux. Son nom de code britannique que vous pouvez trouver dans les sources officielles, c'est Garbo. Et forcément, il a aussi un nom de code allemand qui est Arabelle. C'est l'imposture la plus extraordinaire de la Seconde Guerre mondiale, un civil qui a inventé une armée de fantômes pour changer le cours de l'histoire. Mais le plus fou, c'est pas ce qu'il a fait, sinon je vous l'aurais pas annoncé dès le début de la vidéo. C'est comment il a commencé. Plus je creusais dans les recherches, plus j'avais cette tête-là, parce que rien, absolument rien, ne le destinait à faire ça. Pour comprendre comment un éleveur de poules catalan a pu devenir le pilier de la plus grande opération de désinformation de tous les temps, il faut remonter à la guerre civile espagnole. Donc Juan Pujol Garcia naît le 14 février 1912 à Barcelone. Il est issu d'une famille de la petite bourgeoisie catalane, son père c'est un propriétaire d'une usine de teinture de coton, et rien dans sa jeunesse ne laisse présager d'un destin extraordinaire. Par contre ça va être le cas. Pujol, c'est un étudiant médiocre, un soldat qui déteste la discipline, un entrepreneur dont quasi toutes les tentatives vont se solder par des échecs et des faillites, il gère un cinéma, il étudie l'élevage avicole et il finit par diriger la fameuse exploitation de poules au nord de Barcelone qui ne marche pas du tout en réalité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas James Bond qu'on a en face de nous. Pourtant, je vous le dis, cet homme va réussir à tromper les services secrets les plus dangereux du monde alors qu'il a aucune formation, et ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'il parle même pas anglais. C'est là que le mentaliste en moi est fasciné, parce que pour créer cette histoire parfaite, Pujol n'a pas eu besoin de gadgets de haute technologie, il s'est immergé dans la lecture. Ça a été ça son secret. Il a utilisé un guide touristique, des livres sur l'Angleterre, des magazines spécialisés pour s'approprier une culture qu'il ne connaissait pas. Il a prouvé qu'avec les bons livres, on peut littéralement changer le monde. Et justement, si vous aussi vous voulez nourrir votre curiosité, avoir accès à une source de connaissances quasi infinie, c'est le moment de vous parler du partenaire Nextory dont je vous parlais en début de vidéo. Écoutez bien parce qu'il y a une bonne surprise pour vous, Nextory c'est l'application qui transforme votre smartphone ou votre tablette en une bibliothèque monumentale avec 1,4 million de titres, on y trouve des e-books, des magazines et surtout un catalogue de livres audio impressionnants. Un exemple que je prends au hasard, tous mes livres sont dispo en version audio, lus par votre serviteur chez Nextory. Donc oui, même mon tout dernier livre sur le sommeil qui vient juste de sortir, il est déjà dispo là-bas, ok? Bon, il n'y a pas que moi, donc si vous êtes passionné par l'histoire, par la science, le développement personnel, etc., c'est l'outil idéal pour optimiser votre temps. Attendez, c'est même pas ça encore la surprise pour vous. Ce qui est bien avec les livres audio, c'est que vous pouvez commencer à l'écouter dans votre cuisine, continuer l'écoute en faisant du sport ou en étant en voiture. La bonne surprise, c'est que j'ai une offre spéciale pour vous de la part de Nextory, merci à eux, 60 jours gratuits via mon lien nextory.fr/fabien60. Vous passez par mon lien, vous avez 60 jours gratuits. C'est une occasion en or pour explorer leurs e-books, la presse en illimité pour les livres audio. Vous bénéficiez d'un forfait de 30 heures d'écoute au total, donc ça vous fait 15 heures par mois. En gros, Next Story vous donne l'occasion d'écouter 6 de mes livres audio, si vous vouliez cela, parce que vous n'êtes pas obligé d'écouter cela, évidemment. Et ce que j'aime bien avec les offres comme ça, c'est que c'est bien aussi pour découvrir des nouveaux auteurs durant l'été, sans emmener 14 kilos de livres avec vous, et sans prendre le risque aussi d'être déçu parce qu'on voulait essayer, et puis ça nous plaît ou ça nous plaît pas. L'offre est valable pour les nouveaux utilisateurs ou ceux qui n'ont pas eu d'abonnement pendant 6 mois. Pour ça, vous cliquez le lien en description et vous pourrez en profiter. Moi, j'en reviens à notre éleveur de poules qui, avant d'avoir accès à toutes ses ressources pour peaufiner son art de la dissimulation, a eu un déclic. Il y a un conflit qui agit sur lui comme un petit laboratoire. En 1936, la guerre civile espagnole éclate et ce conflit va tout changer pour lui. Pujol est mobilisé du côté républicain, mais il ne se présente pas. Il y va pas, il se cache, il est arrêté pour ça, hein. On n'a pas le droit de pas y aller, mais il va réussir à s'évader et il finit par servir dans les deux camps, républicains puis nationalistes, tout en affirmant avec fierté n'avoir jamais tiré une seule balle pour aucun des deux camps. Et avec tout ce que j'ai lu, et c'est mon avis, je pense que cette expérience est fondamentale dans sa vie, parce que, après avoir étudié toute son histoire, je crois que c'est ça qui explique tout ce qui va venir. Il a assisté aux horreurs des deux bords, c'est-à-dire les purges staliniennes côté républicain et la brutalité fasciste côté franquiste. Il en ressort avec un dégoût quasi viscéral du totalitarisme et surtout, il apprend l'art de la survie par le camouflage identitaire. C'est comme ça qu'il s'en est sorti. En fait, la solution elle est simple, il suffit de passer en permanence d'un camp à l'autre, mais quand on sait que les deux camps exécutent les traîtres, ça demande quand même pas mal de talent de dissimulation. À la fin de la guerre en 1939, il rencontre Araceli González, une jeune femme de Lugo, qui s'est portée volontaire dans un hôpital militaire pendant la guerre et ils se marient. Et quand l'Europe bascule dans la Seconde Guerre mondiale, Pujol prend une décision qui va changer leur vie pour tous les deux. Il veut agir. Il veut contribuer pour le bien de l'humanité en offrant ses services aux Britanniques qui ne vont pas bien l'accueillir. C'est assez hallucinant, on est en 41, il se rend à l'ambassade britannique de Madrid, 3 fois, il se prend 3 refus, genre bien salés. Araceli elle-même s'y rend pour plaider la cause de son mari et expliquer qu'il est volontaire. Nouveau refus, les Britanniques, je les cite, ne veulent pas d'un éleveur de poules sans expérience. On peut comprendre ça. Et le couple a une idée de génie, une idée absurde et tellement absurde que je crois que c'est ça qui va faire qu'elle va fonctionner. Certaines sources, j'ai envie de le préciser, attribuent l'idée à Araceli elle-même. Je le précise parce que souvent, sa femme a été effacée des sources que j'ai pu lire alors que sa présence elle est tout aussi essentielle que celle de son mari. Sa réflexion, c'est de se dire que si les Britanniques ne veulent pas d'un espion, peut-être ils vont accepter un agent double qui est déjà infiltré chez l'ennemi. Autrement dit, pour être cru par les Britanniques, il faudrait d'abord être cru par les Allemands. Alors, Pujol se fabrique une fausse identité, il se présente comme un haut fonctionnaire espagnol fanatiquement pro-nazi, il se fabrique un faux passeport diplomatique, en dupant un imprimeur d'ailleurs, ça c'est une autre histoire, et avec ça il approche l'Abwehr, le service de renseignement militaire du Reich, à Madrid. Friedrich Knappe, un agent de l'Abwehr, mort à l'hameçon, il recrute Pujol et lui donne le nom de code Arabelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Petite fun fact que j'aime bien, selon certaines sources, ce nom viendrait de Araceli Bella en hommage à la beauté de sa femme. Donc un homme sans formation d'espion vient de convaincre les services du renseignement du Troisième Reich de l'engager. C'est déjà pas mal, mais ce qui va suivre, vous n'êtes pas prêts, c'est le cran au-dessus. L'Abwehr ordonne à Pujol de se rendre en Angleterre et d'y monter un réseau d'espions, mais Pujol ne va pas aller en Angleterre. D'ailleurs, c'est là que tout bascule, puisque ce qu'il va faire n'a aucun sens. En réalité, il va à Lisbonne, au Portugal, et depuis une chambre d'hôtel, il commence à envoyer des rapports d'espionnage comme s'il était à Londres. Il envoie ses rapports sans jamais n'avoir mis un pied en Grande-Bretagne et sans parler un seul mot d'anglais. Il utilise un guide touristique, le Blue Guide de l'Angleterre, et des magazines qu'il emprunte à la bibliothèque publique de Lisbonne, comme je vous disais tout à l'heure quand je vous avais parlé de Next Story. Il utilise notamment les publications sur la Royal Navy. Il a à disposition les actualités filmées, qu'il va voir au cinéma, et qui lui donnent une idée visuelle de l'atmosphère de guerre à Londres. Et il pousse le vice en utilisant un guide des chemins de fer britanniques pour justifier de ses notes de frais et simuler les déplacements qu'il ferait tous les jours. Et avec ça, il va convaincre les nazis qu'il dirige un réseau d'espions à Londres. Il rédige des rapports détaillés sur de prétendus mouvements de troupes et de convois navals et décrit des paysages qu'il n'a jamais vus. Il parle de villes qu'il connaît que par des photos, il cite des personnes qu'il n'a jamais rencontrées, c'est de la fiction. Mais il raconte ça comme s'il était reporter sur le terrain, il maîtrise même pas le système monétaire britannique de l'époque. C'est à mourir de rire, leur système, c'est le système prédécimal où une livre sterling vaut 20 shillings et un shilling vaut 12 pence. Cherchez pas, c'est imbouffable, la règle de cul de chouette c'est plus simple. Donc, il est incapable de totaliser ses frais de déplacement, alors, il n'y arrive pas. Donc il les détaille ligne par ligne, et il annonce qu'il enverra le total plus tard. Là, on se dit ça ne va pas passer, mais les Allemands ne relèvent pas cette bizarrerie. Il a fait des erreurs encore plus grossières. La plus célèbre, elle est dans un rapport et normalement, à ce moment-là, il était grillé. L'histoire, elle aurait dû s'arrêter là, mais non. Il affirme dedans qu'un contact à Glasgow ferait n'importe quoi pour un litre de vin. Sauf que les Écossais boivent du whisky, pas du vin. Et le Royaume-Uni n'utilise pas le litre, donc il n'y a rien qui va dans sa phrase. Mais finalement, ces officiers traitants allemands, ils y connaissent rien non plus aux mœurs britanniques. Ils en savent pas plus que lui, alors ils avalent tout, et aussi parce que les rapports sont longs. Je veux dire, il est généreux dedans, hein. C'est détaillé, c'est enrobé avec un fanatisme nazi très convaincant, tellement convaincant que personne ne va se poser de questions. La prochaine étape est hallucinante, mais sur le côté, pendant ce temps, Araceli joue un rôle crucial à Madrid pour rassurer les Allemands. Elle se rend à l'ambassade et elle joue la grande scène de jalousie. Elle prétend que son mari l'a abandonnée pour partir travailler à Londres et knapper. Il y croit, il est touché par sa détresse et finit par lui confirmer que Rouen accomplit, je cite, une mission vitale pour le Reich. Donc sans le savoir, il vient de valider définitivement la couverture de Pujol. Sauf qu'un événement inattendu va tout accélérer. Les Britanniques, grâce au programme Ultra, le décryptage des communications Enigma, interceptent les rapports d'Arabelle et réalisent que quelqu'un est en train de désinformer les Allemands depuis l'extérieur, parce que évidemment, ils voient bien que les informations sont fausses. Encore plus incroyable, la marine allemande gaspille des ressources considérables pour traquer un convoi fictif décrit par cette personne. Cette personne, c'est Pujol. Le convoi n'existe pas, mais les Allemands, ils y croient suffisamment pour engager leur flotte. Les Britanniques hallucinent, ils comprennent le potentiel de cet agent mystérieux et ils lancent une chasse pour le retrouver. Alors là, le couple va forcer le destin. En février 1942, selon la plupart des récits, c'est Araceli elle-même qui prend l'initiative de contacter l'attaché naval américain à Lisbonne et de lâcher la bombe. L'espion que vous cherchez, c'est mon mari et il veut toujours travailler avec vous. C'est incroyable. C'est l'éleveur de poules qu'ils avaient refusé 3 fois, 4 fois si on compte avec elle. Du moins, c'est les Britanniques qui voulaient pas et l'information remonte jusqu'à eux. Pujol est un peu analysé, il est jugé loyal et il est exfiltré, cette fois pour de vrai, vers l'Angleterre. C'est comme ça qu'en avril 1942, il débarque à Plymouth. On lui attribue d'abord le nom de code Bovril comme extrait de bœuf, puis Cyril Miles, son officier traitant, va proposer Garbo. Ça vient de Greta Garbo. Pourquoi? Parce que selon son officier traitant, Pujol est le meilleur acteur du monde. Imaginez que là, c'était que l'intro et que j'ai encore des choses incroyables à vous dire. Pujol, Araceli et leur fils s'installent dans une maison mitoyenne, sans prétention d'ailleurs. Elle va devenir le quartier général de la plus grande opération de désinformation de l'histoire. La clé du succès, ça repose sur un partenariat où Pujol est confié à Thomas Harris, dit Tommy, un officier du MI5 d'origine anglo-espagnole. L'historien Christopher Andrew, qui est l'auteur de l'histoire officielle autorisée du MI5, va qualifier la collaboration de l'un des partenariats agents-officiers les plus créatifs et les plus réussis de l'histoire du MI5. Tous les deux travaillent 6 à 8 heures par jour, 7 jours sur 7, ensemble. Ils vont rédiger 315 lettres, faisant chacune en moyenne 2000 mots. Il n'y a pas de chat GPT là pour le faire à leur place. C'est fait avec leur cerveau, c'est écrit à la main et c'est adressé à une boîte postale à Lisbonne, contrôlée par les Allemands. Le style qu'ils vont utiliser pour les lettres est toujours très 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 bavard. Je vous rappelle que Pujol s'était créé un personnage de fanatique nazi prolixe. Et c'est ce côté pipelette qui va être sa meilleure arme. Parce que comme la bonne pipelette qu'il est, il noie l'adversaire sous un flot d'informations, de fiction mélangées à des informations réelles, mais des informations réelles qui n'ont pas de valeur, et des vrais renseignements qui sont volontairement retardés pour être inexploitables, mais qui crédibilisent l'ensemble. Et surtout, les deux vont créer une armée de fantômes. 27 sous-agents entièrement fictifs. J'ai trouvé le plan complètement dingue, c'est irréel parce que c'est une réalité alternative. Chaque agent virtuel a un nom et un prénom évidemment, mais une biographie complète, une personnalité distincte. On sait ce qu'il aime pas, etc. Il a une motivation crédible d'avoir rejoint les rangs. Il a un métier, il y a un pilote de la compagnie KLM, un fonctionnaire qui est frustré, qui travaille au ministère de l'information. Il y a même un groupe fictif de fanatiques pro-nazis appelé le World Aryan Order. Donc chaque agent a une sorte de légende complète, une couverture, mais personne n'existe. Pujol en fait même mourir certains des fois au cours d'opérations en faisant publier des faux avis nécrologiques dans les journaux britanniques et les Allemands qui y croient envoient des condoléances aux veuves de ces agents imaginaires, même de l'argent, c'est linéaire, c'est complètement linéaire. Et, je sais que je me répète, mais c'est que le début. Au total, les Allemands verseront l'équivalent d'environ 31 000 livres sterling de l'époque, à peu près 1 million de livres en valeur actuelle, pour financer un réseau qui n'a jamais existé. Et ils sont tellement convaincus de l'efficacité de Pujol qu'ils cessent d'envoyer d'autres espions au Royaume-Uni. Pourquoi se fatiguer? Pujol couvre parfaitement le terrain. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle la vidéo sur Oncle Jerry qu'on avait fait ensemble ici sur cette chaîne, qui avait truqué le jeu Monopoly du McDo, qui fait que personne n'a gagné à ce jeu. Tous les gains étaient contrôlés par ce gars. Dès qu'une seule personne a toutes les clés en main, bah c'est plus très fiable. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que dans la description, il y a une playlist avec tous les épisodes de All Thread. Si jamais vous voulez en voir d'autres ou même vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, c'est dans la description. Le premier grand test de Garbo, de Pujol, va commencer en novembre 1942. Vous allez voir, c'est l'opération Torche, le débarquement allié en Afrique du Nord. Donc un agent, je vous rappelle qu'il n'existe pas, hein, de Garbo, posté en Écosse, rapporte qu'un convoi de transport de troupes a quitté les ports, peint en camouflage méditerranéen, ça a son importance. L'information est exacte, hein, ça c'est vrai, ça se passe vraiment. Mais le rapport est délibérément retardé par les services britanniques pour arriver juste un peu trop tard. Donc le résultat, c'est un coup double parfait, parce qu'à ce moment-là, il a gagné. Les nazis, si tant est qu'ils doutaient un peu de lui, ne douteront plus jamais de lui. L'information est vraie, ça renforce la crédibilité de Garbo, mais elle est inexploitable, donc ça protège l'opération. Vous allez mieux comprendre si vous lisez la réponse des Labwehr, qui ont écrit « Nous sommes désolés qu'il soit arrivé trop tard, mais vos derniers rapports étaient magnifiques ». C'est ce qu'ils ont écrit à Pujol. À partir de ce moment-là, la confiance des Allemands en Garbo est totale et définitive. Mais pendant que Pujol et Harris construisent leur arsenal de mensonges, il y a une crise qui menace de tout faire s'effondrer. Ça risque de tout compromettre, et la crise, elle vient même pas des Allemands. Il faut comprendre qu'Araceli paye quand même très fort le prix de l'isolement. Je veux dire qu'à Londres, elle est coupée de tout. Elle parle pas anglais, le MI5 lui a interdit tout contact avec la communauté espagnole et toute correspondance avec sa famille en Espagne, donc elle a plus de lien avec personne. Son mari y travaille en permanence, elle est seule avec leurs enfants dans une banlieue un peu grise. Alors qu'au début, elle avait été une partenaire très active à Lisbonne. Là, elle est reléguée au rôle de femme au foyer, elle est exclue du projet qui avait donné un sens à leur vie. Et le 21 juin 1943, elle expose, elle a une dispute violente avec Pujol, elle appelle Thomas Harris et elle profère une menace qui fait trembler tout le monde. Elle dit qu'elle veut partir, qu'elle veut pas vivre 5 minutes de plus avec son mari, et que si on veut l'en empêcher, même si on menace de la tuer, elle ira à l'ambassade espagnole et elle racontera tout. Si Araceli parle, non seulement Garbo est grillé, mais potentiellement tout le programme d'agent double britannique, y compris l'opération Fortitude en préparation. Je vous ai pas encore parlé de Fortitude. Fortitude, c'est le plan pour protéger le futur débarquement en Normandie. C'est le plan qui va nous sauver. Je dois avouer que la réponse de Pujol et du MI5 est assez glaçante. Ils vont retourner leur technique d'espionnage contre Araceli. Le lendemain de sa crise, des officiers du MI5 vont se présenter chez elle pour l'informer que son mari a été arrêté et emprisonné à cause des menaces qu'elle a proférées. C'est faux. C'est hyper culpabilisant. C'est un pur mensonge. Et ensuite, elle est emmenée, les yeux bandés, au camp 20, le centre d'interrogatoire du MI5. C'est l'endroit où on fait parler les espions ennemis. Là, sur place, elle va retrouver son mari en uniforme de prisonnier, pas rasé, hein, il joue son rôle à la perfection. En fait, il monte un jeu comme si à cause d'elle et de ce qu'elle avait dit, eh bien, lui n'était plus fiable et qu'il se méfiait de lui aussi. Araceli est effondrée, elle va signer une déclaration et s'engager à ne plus jamais compromettre le travail de son mari. Cette manœuvre sauve l'opération, mais elle aura laissé des traces indélébiles dans leur relation. Pour info, après la guerre, Araceli va retourner en Espagne et ils vont divorcer. Elle ne le pardonnera jamais complètement, et comme je le disais tout à l'heure, l'histoire en plus, pendant des décennies, va la réduire à une note de bas de page. Il va falloir attendre la déclassification des dossiers du MI5 pour que son rôle soit enfin réévalué. Pour finir la parenthèse là-dessus, je cite les archives nationales britanniques où il est inscrit « Il est difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour Madame Garbo et de l'admiration pour son rôle dans l'une des plus grandes tromperies du XXe siècle ». En janvier 1944, les Allemands informent Garbo qu'ils pensent qu'une invasion alliée à grande échelle est imminente et lui demandent de les tenir informés. Ils ont raison, l'opération Overlord est en préparation. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le plan inclut l'autre opération dont je viens de vous parler, l'opération Fortitude, la plus grande opération de désinformation de l'histoire de la guerre. Garbo, c'est la pièce maîtresse, et il doit convaincre Hitler que le vrai débarquement aura lieu au Pas-de-Calais et que la Normandie, c'est un leurre. Pour ça, les Alliés créent une armée entièrement fictive, le FUSAG, le First United States Army Group, 1 million d'hommes sur le papier, sous le commandant du général Patton, choisi précisément parce que les Allemands le considèrent comme le meilleur stratège allié. Et pour donner un peu de corps à ce fantôme, on déploie des chars gonflables en caoutchouc, des faux avions en bois, des péniches de débarquement contreplaquées, du trafic radio simulé. J'ai parlé de tout ça dans un mini All Thread sur mon compte Instagram, si jamais vous voulez en savoir plus. C'est vrai que j'ai jamais dit sur YouTube, mais cette année, je me suis relancé le défi de faire une vidéo par jour jusqu'au 31 décembre, mais c'est sur Instagram. N'empêche que tout ça, ça ne suffit pas si on n'a pas une source humaine derrière un truc un peu crédible, et cette source, c'est Garbo. Entre janvier et juin, il envoie plus de 500 messages radio, parfois 20 par jour, décrivant à travers ses 27 agents fictifs des concentrations massives de troupes dans le sud-est de l'Angleterre. Et la tromperie fonctionne parce qu'elle renforce un biais de confirmation. Bah oui, parce que les Allemands à la base, ils pensaient que le Pas-de-Calais était logiquement la cible la plus probable. On revient au 6 juin 1944, c'est maintenant. Tout ce qu'il a construit va se jouer. En quelques heures, le jour J, la nuit du débarquement, Garbaud a envoyé un message à ses supérieurs allemands. Des arrangements spéciaux avaient été pris pour que les opérateurs radio allemands soient à l'écoute vers 3h du matin. Mais personne ne répond côté allemand. L'opérateur de Madrid ne se manifeste qu'à 8h du matin et Pujol explose de colère dans ses messages. Il dit « Je ne peux pas accepter ni excuses ni négligence. Si ce n'était pour mes idéaux, j'abandonnerais ce travail. » Il est dans une colère noire et cette colère, c'est précisément finalement ce qui va convaincre Hitler lui-même. Cette fureur feinte, évidemment, au moment même où les troupes alliées sont en train de débarquer en Normandie, achève de convaincre Berlin de sa loyauté absolue. Arrive le message le plus important de la carrière de Garbaud. Si ce message échoue, le débarquement échoue. Il rapporte que le premier groupe d'armées américain sous Patton n'a pas bougé du sud-est de l'Angleterre et que la Normandie n'est qu'une diversion pour le véritable assaut sur le Pas-de-Calais. Le message remonte toute la chaîne de commandement jusqu'à Hitler et ça marche. Les divisions blindées qui étaient en route vers la Normandie font demi-tour. Pendant juillet et août 1944, les Allemands maintiennent au Pas-de-Calais deux divisions blindées et 19 divisions d'infanterie en attente d'une invasion qui ne viendra jamais. Et je vous donne l'ironie suprême, le 29 juillet 1944, 7 semaines après le débarquement, Hitler signe personnellement un décret attribuant à son agent Arabel, donc Pujol, la croix de fer, la plus haute distinction. Et le 25 novembre de la même année, le roi George VI, en Angleterre, va décorer ce même homme, Pujol, de l'ordre de l'Empire britannique, la plus haute distinction. Juan Pujol Garcia devient l'un des seuls hommes, peut-être le seul mais j'en suis pas sûr, donc je dis l'un des seuls, de la Seconde Guerre mondiale à avoir été officiellement décoré par les deux camps ennemis de leur plus haute distinction. Alors attention, je dois préciser quelque chose que j'ai vu dans mes recherches. J'ai compris que finalement, aujourd'hui, les historiens débattent un peu du poids exact de Fortitude dans le succès global du débarquement. La supériorité aérienne et navale des Alliés, la logistique, la météo, d'autres décisions allemandes ont aussi joué en fait. Mais évidemment, ce qui est établi et documenté par le MI5 lui-même, c'est que la tromperie a contribué à maintenir des forces allemandes considérables loin des plages de la Normandie pendant des semaines qui étaient les semaines cruciales. Pas moins de 62 rapports de Garbaud ont été retrouvés dans les synthèses de renseignements du haut commandement allemand. En fait, on ne pourra jamais vraiment savoir ce qui se serait passé sans cette opération. Mais forcément, ça aurait été moins efficace. L'histoire n'est même pas finie parce qu'après la guerre, Pujol est en danger et pour survivre, il doit disparaître. Pour de vrai, il y a des nazis survivants, des membres humiliés peut-être de l'Abwehr, potentiellement des agents soviétiques qui pourraient vouloir le retrouver. Alors en 1949, avec l'aide du MI5, il se rend en Angola et simule sa propre mort. Officiellement, Juan Pujol Garcia meurt de la malaria en Afrique à 37 ans. L'annonce circule dans les cercles de renseignement. Petit à petit, le monde entier le croit mort. Mais Pujol est bien vivant. Il s'installe au Venezuela, il se remarie là-bas avec une nouvelle personne donc, et il ouvre une librairie et une boutique de souvenirs. Il enseigne l'anglais, parce que oui, quand même, il a appris l'anglais au bout d'un moment. L'homme qui a peut-être changé le cours de l'histoire finit par gérer un petit commerce à Caracas. Et vous savez que j'aime bien aller au bout des recherches. Ce que je trouve encore plus incroyable dans tout ça, c'est que ses enfants espagnols, donc ceux qui sont nés de son premier mariage avec Araceli, croient que leur père est mort, et sa nouvelle famille au Venezuela ignore tout de son passé d'espion. Son silence va durer 36 ans. Pendant 36 ans, personne ne saura qu'il est encore en vie. Et en 1971, un auteur historien britannique de nom de Nigel West commence à s'intéresser au mystère Garbaud. Pendant des années, il va interroger d'anciens officiers du renseignement, etc. Personne ne connaît le vrai nom de l'agent. Et en mars 1984, un ancien du MI5 lui fournit le nom complet de Pujol. Il retrace tout. Et le 20 mai 1984, West et Pujol se rencontrent à la Nouvelle-Orléans. Et après un long silence, Pujol admet toute la vérité. Vous vous rendez compte, sa première famille espagnole apprend que leur père, qui croyait mort depuis 36 ans, est vivant. Je n'imagine même pas le choc. Sa famille vénézuélienne découvre que celui qui est un bon père de famille et qui tient une petite librairie, qui mange pas de pain, quoi, qui vaut pas grand chose, est le plus grand espion de la Seconde Guerre mondiale. Araceli, elle aussi, s'était remariée entre temps, dit qu'elle avait toujours soupçonné qu'il était vivant. Et le 6 juin 1984, pour le 40e anniversaire du jour J, Pujol s'est rendu sur les plages de Normandie. Des vétérans ont fait la queue pour le saluer, le remercier. Mais quand lui est arrivé devant les tombes des soldats morts du débarquement, il a fondu en larmes. Ce vieil homme de 72 ans s'est écroulé littéralement de tristesse en disant « J'en ai pas fait assez. Quand je vois toutes ces tombes, je me dis que j'aurais dû faire plus. » Pujol est mort d'un AVC à Caracas le 10 octobre 1988. Cette fois, sa mort était réelle. Ce que j'aime de la psychologie de cette histoire, c'est qu'on ne convainc pas quelqu'un en le contredisant. On le convainc en l'accompagnant dans ses croyances, ou là où il est déjà prêt à croire. Et les Allemands, ils pensaient que l'invasion viendrait du Pas-de-Calais. Je veux dire, Garbeau n'a pas inventé cette histoire-là et cette conviction. Il l'a nourri, il a donné à Hitler exactement ce qu'Hitler voulait entendre. Avant de se quitter, j'aimerais quand même vous rappeler ce vrai bon plan. Vous pouvez profiter de 60 jours d'essai gratuit sur Nextory via le lien dans la description. C'est le meilleur moyen pour vous plonger dans des récits historiques ou des thrillers aussi prenants que l'histoire de Garbeau, ou même pour lire ou écouter mes livres tout en soutenant la chaîne. Merci de partager ce moment avec moi. On se retrouve très très vite pour un prochain All Thread. Je m'appelle toujours Fabien Licard. À très bientôt. Ciao.